Aujourd'hui, la masterclass d'Agnès Varda avec Antoine Guillot.
Vous avez même le bonjour d'un petit oiseau. Bienvenue dans cette masterclass, enfin on dira plutôt une causerie aujourd'hui avec Agnès Varda. Agnès, je ne sais pas si certaines personnes peut-être et qui vont nous écouter quand celle-ci sera diffusée ne vous connaissent pas totalement. Je vais peut-être quand même vous présenter un petit peu. Je ne sais pas par quoi commencer, mais peut-être par dire que comme Cadet Roussel avait trois maisons, vous avez eu trois vies artistiques. En tout cas, dans la première, vous étiez photographe. Vous avez accompagné de 1948 à 1960 les toutes jeunes années du Festival d'Avignon et puis du Théâtre National Populaire de Jean Villard. Dans votre deuxième vie, vous êtes cinéaste. C'est comme ça, sans doute, qu'on vous connaît le plus. Un premier film réalisé en 1954 avec deux comédiens du Théâtre National Populaire, et pas des moindres, Philippe Noiret et Sylvia Montfort. C'était à Sète. Ça s'appelait La Pointe Courte. Sète, c'était la région de votre enfance. Et ce film était évidemment précurseur de la nouvelle vague dans ses peu de moyens, dans la liberté que vous y affichiez, et dans cette façon aussi de mêler fiction et regard documentaire de face du cinéma avec lesquels vous avez joué sans arrêt. Ensuite, côté fiction, on parlera de Cléo de 5 à 7, du bonheur, des créatures, de l'une chante, l'autre pas, et évidemment sans toi ni loi, Lion d'or à la Mostra de Venise en 1985 avec la grande, on s'en souvient, prestation de Sandrine Bonner, Jaco de Nantes, film très très émouvant, où vous rendiez hommage à Jacques Demy, à son enfance. Et puis, côté documentaire, alors là, je n'aurai pas le temps de tous les citer. Agnès, il y en a quantité, ils sont petits, ils sont grands. Il y avait Opéra Mouf, Daguerréotype, tourné rue Daguerre, Murmure, tourné à Los Angeles, Les Glaneurs et la Glaneuse, regardez le sac qui est à votre pied, il nous rappelle les souvenirs de ce film, Les Plages d'Agnès, et puis le dernier à ce jour, Visage Village, le film que vous avez co-signé avec l'artiste JR. Il y a eu aussi ce diptyque Kung Fu Master, Jane B par Agnès V, les films que vous aviez fait avec Jane Birkin, et qui représente vraiment cette frontière très très mouvante, indécise, entre fiction et documentaire chez vous, ce qui fait que l'ensemble des films pourrait prendre le titre d'un film cher à votre cœur que vous avez réalisé en 1982 qui s'appelait Documentaire, pour des films qui sont à la fois très personnels, qui sont un peu un journal intime des différents moments de votre vie, et puis très ouverts aux autres, aux rencontres, et notamment à ceux que la vie, que la société a mis sur le côté ou à la marge. J'arrive enfin à votre troisième vie artistique. Elle a commencé il y a une quinzaine d'années quand Hans Ulrich Obrist vous avait invité à la Biennale de Venise. C'était en 2003 et c'est votre vie. Alors vous n'aimez pas le terme de plasticienne, vous êtes une artiste visuelle, visual artist.
Je ne fabrique pas du plastique. Quoi.
Vous ne faites pas du plastique, évidemment. Vous montrez des patates à la Biennale de Venise. C'était Patate Utopia avec ces patates en forme de cœur qui avaient germé, qui étaient ridées. Et vous-même, l'artiste, au milieu de ces patates, en robe patate, et je me souviens de cette très belle robe patate qui diffusait par haut-parleur les noms de toutes les variétés de pommes de terre. De nombreuses installations depuis, à Lyon, à Gand, à la Fondation Cartier à Paris, au Crac de Sète, à Bâle, à Pékin, j'en passe beaucoup, et la Chapelle Saint-Charles, à Avignon, où vous avez exposé les photos de votre première vie, comme une boucle. Alors évidemment, on n'aura pas trop d'une heure pour évoquer toutes ces questions, Agnès.
Mais
on...
C'est déjà si tu, pendant une heure, tu fais mon compliment.
Maintenant, je dis plus rien. Maintenant, j'ai pu dire que des méchancetés, Agnès. On pourrait commencer peut-être par une première question. Est-ce que vous avez compris depuis bientôt 70 ans que vous faites et que vous créez des images? Pourquoi vous avez le besoin de créer ces images, Agnès Varda?
Ben, c'est pas le besoin de créer des images. C'est que, d'une part, je suis curieuse, j'ai les yeux curieux. Et je pense que de faire une photographie, de capter quelque chose, surtout si on choisit ce qu'on veut montrer, c'est très passionnant, c'est très intéressant. J'ai été une piètre photographe parce que j'ai pas appris. J'ai regretté d'ailleurs parce que je vois toutes ces écoles formidables qu'il y a maintenant. Donc j'ai pataugé comme ça, là où j'étais en apprentissage. Ils me prêtaient le labo le samedi après-midi, mais j'avais acheté des petits papiers comme ça parce qu'ils voulaient pas me montrer comment faire. Alors pour pas trop, j'ai acheté ces boîtes de papier qui servaient à faire les photos des familles. Et je pataugeais comme ça. Après, j'ai eu un petit labo chez moi et j'ai appris peu à peu à faire les produits, à tout ça. Donc, j'ai commencé un peu flou. J'ai choisi photographie parce que quand je me demandais quoi faire, j'aimais bien écrire, mais je ne me voyais pas faire ça. Et j'ai vu que c'était un métier intelligent et manuel. Ça me plaisait beaucoup de développer moi-même, d'agrandir, de cadrer, de bricoler, de faire comme ça. Donc j'ai aimé le côté pratique. Et après de s'occuper de glacer les photos, après de les repiquer. Ça m'amusait autant, et pas du tout sur un point de vue, est-ce que j'ai une vision, comme ci, comme ça. Donc je ne suis pas, je ne vais pas me faire naïve, mais je suis rentrée d'en faire les photographies par le petit côté, comme ça, et peu à peu, tout en faisant effectivement la chose connue. C'est parce que Gérard Philippe est venu se joindre à la troupe de Jean Villard au Festival d'Avignon. Ça se passe, excusez-moi, en 1951. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, mais c'est comme ça. Et la notoriété de Gérard Philippe a fait que les photographies ont été connues. Et du coup, j'ai été considérée comme une photographe. Mais déjà à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre dans les pièces de théâtre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour raconter la pièce sans filmer les détails. C'est-à-dire, je faisais des photographies presque symboliques. Je me souviens que pour Macbeth, à part les photographies de scène, j'avais fait comme ça deux profils, Maria Cazares et Villard, comme un médaillon de ces monstres parallèles, comme ça. Donc je cherchais, même dans les photos de théâtre, à faire un petit peu comme il faut. Et puis surtout, je faisais pour moi ce que j'aimais, mes photos. Je me considérais comme libre de faire des photographies que j'appelais des compositions. Donc j'ai eu un début de photographe, heureusement, si j'ose dire, payé par les photographies de théâtre. Et puis je faisais les miennes. Donc, comment est-ce que j'ai passé au cinéma, ça reste un mystère.
Mais oui, pourquoi à un moment la photo n'était plus ce qui vous satisfaisait? Est-ce que cette idée de passer au cinéma venait depuis longtemps? Parce qu'il me semble que quand vous avez fait votre premier film, La Pointe Courte, vous n'étiez pas particulièrement une cinéphile, vous n'alliez pas énormément au cinéma. Qu'est-ce qui a suscité cette envie, ce besoin de passer au cinéma?
Des fois, quand je ne sais pas très bien, je vais demander à l'oiseau. On l'entend, là?
Oui, on l'entend.
Parce que j'ai jamais vraiment pu répondre à cette question. À 25 ans, j'avais peut-être vu 7-8 films. Et je vois des étudiants que je rencontre, des jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans, ils ont vu 50 films, ils parlent des grands auteurs. Enfin, c'est magnifique, la connaissance du cinéma, la cinéphilie qui commence très tôt. Et j'allais pas au cinéma. J'allais au théâtre et j'allais, je sais pas, je marchais dans la rue, mais... Donc, j'avais pas vu de films. Donc, je n'avais pas de modèle. Après, quand j'ai vu les films, quand Alain René, qui était le monteur de mon premier film, me dit, il faut aller voir des films, je disais, où? Il m'a dit, il y a une cinémathèque à Paris. Je ne savais même pas, avenue de Messine. Donc, il m'a fait une liste, me suggérant d'aller voir 2-3 films. Le fait d'avoir été sans connaissance m'a donné du culot, je crois, puisque je n'avais pas de référence. Et ce premier film culotté, qui était basé sur 2 histoires complètement différentes, Les pêcheurs de la Pointe Courte et un couple qui s'expliquait dans le même lieu géographique, mais sans interférence, en passant d'une histoire à l'autre. Donc, cette liberté que je me suis donnée, en fait, je l'ai gardée après, quoi. C'est-à-dire que j'ai pensé que si on réfléchissait à un film avant, à quelle forme il pourrait avoir, ça serait intéressant. Mais le problème a toujours été l'argent. La Pointe Courte a été faite avec 2,50 francs. Et a rapporté 2,40 francs. C'est-à-dire que le film qui est connu, étudié et tout ça, je crois qu'en 50 ans, je ne sais pas, il y a plus de 50 ans, il a peut-être fait 10 000 entrées, mais il a été montré, il est étudié et tout ça. Ça me fait plaisir qu'il existe, même si on a à peine payé les 4 sous que ça avait coûté. Mais après, en fait, j'ai eu de la chance parce que Georges de Bourgard, qui avait fait confiance à Godard pour faire À bout de souffle, beaucoup d'argent. Donc il a dit, est-ce que tu connais pas, vous ne connaissez pas un jeune homme de votre genre, talentueux, qui fait des films pas chers? Donc Jean-Luc a présenté Jacques Demy de Beaucard, qui a fait Lola. Donc ce film était très beau, et il a dit, mais vous connaissez pas un autre qui pourrait aussi faire des films comme ça pas chers? Il a dit, mais j'en connais une, il m'a présenté à Georges Beaucard. Alors j'ai présenté un très beau sujet qui se passait à Venise, à 7, en couleur, ça, et... Non, c'est beaucoup trop cher. Est-ce qu'il ne pouvait pas un truc pas cher? Pas cher, mais il vaut mieux rester dans la même ville. Et tout d'un coup, l'idée de se concentrer sur une période serrée, Je me suis dit, comme ça, il n'y a pas trop de déplacements, il n'y a pas trop de costumes, on peut changer une fois, mais pas 18. Et donc, c'est comme ça que, par contingence au départ, j'ai fait un film réduit dans la géographie. Et puis, du coup, j'ai pris ça à bras-le-corps et j'ai dit, alors, maintenant, on va être dans un temps réel. C'est intéressant. Et ça s'appelle de 5 à 7. Mais en fait, ça se passe de 5h à 6h30. J'avais choisi le titre un peu coquin pour essayer d'attirer les gens, peut-être. Et en fait, c'est un sujet assez sérieux. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a vu Cléo de 5 à 7 ? Oui, beaucoup. Alors, vous savez de quoi il s'agit. Ce qui m'intéressait, c'est justement d'essayer de raconter l'émotion de la peur qui saisit cette femme parce qu'on attend les résultats d'un examen, qu'elle a peur du cancer, que tout le monde a peur du cancer, mais qu'à cette époque, il y a une espèce de... ça est devenu une espèce de psychose générale. Hein. Le cancer était comme un démon. Et alors,
je crois même que Georges de Beauregard ne voulait pas qu'on cite le mot dans le film.
Alors, il dit, ça porte malheur, mais je dis, il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Alors, il m'a permis de le dire une fois. Alors, quand elle rencontre le soldat dans le parc Montsouris, près de la petite cascade, il dit, vous avez peur de quoi ? D'abord, elle dit qu'elle a peur de tout, mais elle dit, le cancer, je crois. Donc, j'avais autorisation de ça. Mais on comprend bien qu'ils vont écouter, essayer de rencontrer le docteur pour avoir les résultats de cet examen. Donc, cette chose un peu fine, sentimentale, la peur, les sentiments, je voulais qu'elle soit enclose, si je peux dire, dans une structure extrêmement raide, qui est de respecter le temps exact. Il y a d'ailleurs des projections où il commence à 5 heures. Et il vérifie s'il y a 5 heures et demie dans le film, c'est juste. Parce que véritablement, c'est à 2 secondes près, ça passe vraiment le vrai temps qu'il faut. Quand elle fait le trajet en taxi, de la rue de Rivoli à Vavin, c'est le vrai trajet. Cette contrainte, et puis l'autre contrainte, c'était le temps. Le temps pour pas se tromper de longueur de scène, pour que quand on regarde une montre à Vavin, ce soit la vraie montre. Je me rappelle, j'avais dit, c'est comme un métronome et un violon. Je voulais mettre en même temps cette rigueur et cette douceur d'émotion. La peur, c'est en même temps doux, elle rentre là-dedans. Comme j'ai toujours eu derrière moi là, le désir d'être chanteuse, c'était quelque chose. C'est si je m'étais imaginée, dans la vie rêvée, je suis chanteuse. Un peu tard pour m'y mettre, mais... Donc j'en ai fait une chanteuse, j'ai écrit les paroles, et Michel Legrand, qui joue lui-même d'ailleurs le musicien, a fait cette musique. D'abord, c'était très formidable, parce que Corinne Marchand, cette magnifique femme qui incarne Cléo, la beauté même, était vraiment chanteuse. Donc, contrairement à pas mal de films d'ailleurs, c'est elle qui chante en vrai. Et puis, il y avait quelque chose de très important pour moi, en fait, de considérer que le choc d'avoir peur va secouer sa tête. Et donc, le film est construit en 2 morceaux. Première 45 minutes, deuxième 40. Exactement au milieu du film, elle chante sa chanson. Parce que toute la première partie, elle est définie comme regardée par les autres. Regardée par sa gouvernante, par la dame qui la reconnaît dans la marchande de chapeaux. Elle a un disque, enfin, on sent, ses musiciens arrivent, ils se foutent d'elle, mais elle est regardée, son amant passe. Bon. Et elle se vit comme regardée, décrite par les autres. Et après cette chanson, elle sort. Et là, c'est elle qui regarde. Et toute la seconde partie du film, elle regarde. Et même, elle passe de quelque chose d'un peu une rêverie de beauté à quelque chose de très trivial, parce que dans la rue, elle voit un type qui avale des grenouilles et qui les recrache pour gagner sa vie. C'est-à-dire, on passe tout à fait à la réalité de la vie. Elle se rend compte qu'on n'écoute pas ses disques. Elle se met à regarder avec curiosité et même affection les gens. Elle va rencontrer sa copine, elle va rencontrer un soldat. Ce moment du film est important. Et moi, j'ai proposé... Alors, vous savez, je suis un petit peu... Tu le sais que je suis déçue. Parce que d'habitude, dans ces causeries, elles sont illustrées. Et quand je fais comme ça, clac, à part l'oiseau, on voit des images. Et là, on nous a dit que c'était que le son.
Et moi, comme on est à la radio, on va imaginer les images.
Oui, mais c'est des vraies personnes et vrais nous. On aurait pu avoir
mais
des,
même
des
les vraies personnes, images. Même les vraies personnes ont de l'imagination, Agnès.
Non, mais je veux dire que comme ils sont vraiment là, on aurait pu avoir vraiment les images. Mais bon, on les a pas. On les a pas. Alors, on va faire...
On l'écoute ?
On va un morceau de Cléo, pas toute la chanson, mais une partie de la chanson, et comment elle réagit, comment... Vous allez voir comment elle se fâche en quelque sorte.
Sans toi, sans toi, belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide, sans toi. Par le cafard morte au cercueil de verre, je me couvre de rire sans toi, et si tu viens trop tard, oh, sans toi,
c'est trop. Je ne peux plus. C'est affreux.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
Elle est fatiguée. Et puis vous savez, le mot cafard est maléfique. C'est comme le mot corde.
Un mot, ce n'est rien, encore que la rime. Mais c'est une belle chanson, je vous assure. Avec ce cri d'amour, vous allez révolutionner le monde de la chanson.
Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est qu'une chanson? Combien de temps dure-t-elle?
Caprice.
Caprice, caprice. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Mais c'est vous qui faites de moi une capricieuse. Tantôt je suis une idiote, une incapable, une poupée de son. Maintenant je vais faire une révolution avec des mots macabres. Mais c'est ça vos chansons de charme? C'est avec ça que je vais faire un succès? J'ai réussi comme un enterrement avec beaucoup de monde. Vous vous servez de mes nerfs, vous m'exploitez. Allez-vous-en. Non, c'est moi qui parle. Angèle vous sert à boire. La séance est finie.
Mais c'est vrai que le fait qu'elle comprenne justement qu'elle a été utilisée comme une belle poupée parce qu'elle est belle, et tout d'un coup elle est furieuse, alors... Elle arrache sa perruque, elle part, elle met une petite robe noire, elle sort. Bon, il y a un vrai changement de coup d'œil sur elle et d'elle qui commence. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, quand même, que dans les films, ce soit la structure du film qui, pour moi, me donne envie de traiter ça dans tous les films. C'est toi qui as parlé le jour de Saint-Antoine-Illois, qui est quand même... que les gens ont aimé et que Sandrine était extraordinaire. Mais c'était quand même construit avec 13 travelling qui allaient tous de droite à gauche, qui s'accrochaient virtuellement. Donc, je trouve que penser à un film, c'est penser à la forme qu'il a.
Et c'est la forme qui va produire presque de la narration par moment.
Oui. Ça précède pas, mais c'est en même temps. C'est-à-dire, c'est quand j'ai envie que le film ait une certaine forme ou une forme lâche comme dans certains documentaires. Mais je pense que c'est comme ça que j'ai viré ma cutie et que je me suis mis à faire des installations. Parce que je pouvais gagner l'espace, puisque bon, un écran c'est magnifique, mais c'est tout plat. Et qu'avec une installation, on pouvait gagner l'espace et on pouvait proposer d'autres approches. Mais bon, je n'ai peut-être pas encore parti à ma troisième vie là.
On va y arriver à cette troisième vie, mais ça veut dire que vous pensez que les films se pensaient en termes d'espace aussi dès le départ. Pour vous, vous tournez toujours en extérieur, vous n'êtes pas une cinéaste de studio, et le lieu dans lequel vous allez tourner, on en parlera après pour les installations, produit aussi quelque chose pour le film, j'imagine.
Ça me permet de prendre ma respiration, mais parce que j'ai fait d'autres films. Par exemple, Jacques Audin, c'était fait avec 3 films en quelque sorte. L'enfance de Jacques, racontée telle que par lui, en blanc et noir, comme dans les années 40. Il y avait une réflexion sur les origines de son inspiration, des scènes de son enfance dont il se souvenait avec couleur et qui avaient littéralement suscité des scènes précises de ses films. Et puis il y avait le troisième film, Jacques est encore vivant, et on peut filmer ses yeux, ses mains. Bon, donc je pense que même les films dont tu dis qu'ils sont émouvants, j'essaie qu'ils soient construits. Même s'ils sont des fois ils ont l'air de briques et de broc, mais c'est pas tout à fait. Par exemple, je n'ai pas pris de notes, j'ai jamais écrit mon petit journal intime, comme certains enfants le font, ou des adultes. Moi, j'ai jamais pris de notes. C'est d'ailleurs comme ça, j'ai perdu beaucoup de souvenirs parce que je sais pas de quoi il s'agit. J'ai fait un grand voyage en Chine, J'ai pas toujours marqué où c'était, bah, j'ai des photos, mais je sais pas où c'est. Même la photo, j'ai jamais eu d'appareil amateur, vous savez, j'ai jamais aimé les petites photos d'amateurs. En fait, j'ai jamais fait de photo, j'ai même pas eu d'appareil, jusqu'à ce que je choisisse d'être photographe. C'est bizarre, c'est arrivé comme ça. La curiosité de l'œil, oui, toujours. Je sais que bon, ça m'a fait rire parce que mon premier Rolleiflex m'a été offert par ma mère, mais elle me dit, est-ce qu'on peut en trouver un d'occasion? Alors, on a regardé et il y en avait à vendre au journal Détective. Alors, on s'est retrouvés dans les bureaux de Détective. Et Détective, à ce moment-là, n'avait pas toujours des photos de ce qui s'était passé dramatique. Et la couverture, c'était un dessin d'un accident, d'un train, d'un truc comme ça. Et après, il y avait des photos dedans. Et donc, ça me fait rire parce que j'ai rien de détective et j'ai rien de sauter sur l'événement.
Après Cléo de 5 à 7, il y a eu votre premier film en couleur, Le Bonheur. Est-ce que vos films se pensent les uns par rapport aux autres? Est-ce que quand vous faites un film, c'est en réaction à un film précédent pour prolonger quelque chose, ou c'est vraiment au fil de votre vie et de votre inspiration qu'arrivent les films?
J'ai pas du tout prévu une carrière, ni un plan de carrière. Ni, j'avais rencontré un metteur en scène, je vais pas le nommer, il me dit, l'année prochaine je fais ça, dans 2 ans j'adapte ça, et dans 4 ans j'ai rendez-vous avec telle actrice. Ça m'a paniqué pour lui, l'idée qu'il était planifié. J'avoue que j'ai jamais pensé à un autre film avant que celui-là soit fini. Et j'ai la chance que les choses se présentent et suscitent ce qu'on pourrait appeler l'inspiration. Sinon, je suis jamais assise devant ma table avec un papier blanc en disant, bon, un film sur quoi? D'abord le papier blanc, comme ça, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et donc, j'ai eu la chance que les choses soient arrivées. Comme j'ai fait Les Glaneurs, parce que j'étais là un jour dans un café, j'ai vu des gens qui ramassaient à la fin du marché, vers 2h15. J'étais Edgar Quinet. Ça m'a impressionné. Je me suis dit, tiens, le mot glaneur, on l'emploie plus. Je commençais à dire, qu'est-ce qu'on glane? Alors je partais à la campagne. Il y a quand même une préparation documentée. Oui. Je me documente sur ce dont je veux parler. Ça a mis au moins 3-4 mois. Même pour Saint-Ouen-du-Lois, j'avais traîné dans les gares la nuit, j'avais été dans des asiles. Pour essayer faut quand même essayer, quand on parle des gens ou d'un groupe de gens, on essaye de savoir. Même pour Cléo, j'avais été dans les salles d'attente des endroits comme Curie et tout ça. Donc, mais après, ça arrive un peu tout doucement, et puis tout d'un coup l'envie de faire le film se construit. Et comment le faire? Comment construire cette maison-là? C'est comme des petites cabanes, c'est comme des maisons.
Pour un film comme Les Créatures, par exemple, qui est un film assez peu connu de vous, il y a pourtant Catherine Deneuve dans le film, Michel Piccoli. C'est un film muet.
Il n'est pas muet. Elle est muette.
Enfin, elle est muet, oui, mais enfin ça joue avec l'absence.
Non. Il y a un moment.
Pourquoi?
Parce que Michel Piccoli parle avec un cheval et le cheval lui répond, j'ai bien aimé ça. Et après, il parle avec un lapin parce que, comme il comprend qu'elle est enceinte, il pense que les lapins s'y connaissent en ça. Mais je crois qu'il n'est pas réussi, ce film-là. Il y a des films où j'avais un espèce de projet, ça a un peu dérapé, donc je n'aime pas trop parler de celui-là.
Ah oui? Mais vous l'avez utilisé, ce film, on en reparlera peut-être dans les installations, mais vous en avez fait une cabane.
Ah oui, mais ça, c'est parce que, alors voilà, vous savez tous qu'on ne projette plus des films 35 mm dans les salles, que cette grande révolution a fait qu'on projette des fichiers grands comme ça qui s'appellent DCP et qui donnent des images très belles dans des salles. Donc le système 35 mm a disparu. Et nous, à Ciné Tamaris, la petite société que j'ai créée en 1954, qui a été peu à peu transformée, mais qui a servi à produire, dont le dernier, que Rosalie, ma chère fille qui est là, a produit, J.R. et moi.
Visage Village.
Oui, c'est produit maison. Eh bien, nous sommes envahis et nous avons dans nos caves et nos réserves des quantités de bobines. Des belles bobines comme ça, dans des boîtes en fer, la pellicule 35. Et alors, selon quand même un principe, et de création et surtout de recyclage, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces films, puisque plus personne ne veut les projeter? Donc, j'ai utilisé la pellicule réelle des films, c'est-à-dire à peu près 3200 mètres par film, 3400 sur Lyon. Et j'ai construit, mais peut-être personne, peut-être vous avez vu, mais dans la Fondation Cartier, j'ai construit une cabane dont les murs et le toit sont en pellicule. La pellicule, c'est pour ça que tu parles des créatures, mais effectivement, j'ai pris celui-là parce que c'est un des moins bien, mais on a construit. Est-ce que quelqu'un a vu une cabane? Deux, trois, bon, je vois rien.
Alors, j'en vois deux ici. Trois au
pas
fond.
Beaucoup.
Quatre.
Ah ben.
Voilà.
Alors, j'en parle un petit peu à la fin des plages d'Agnès. Je montre un peu mon travail. Mais c'était satisfaisant de se dire qu'ils veulent plus du 35 mm. Eh ben, moi, j'en veux encore. Donc, les murs, les toits. On avait quand même mis une porte en bois. Alors, en Amérique, j'ai fait le film que j'avais fait à Los Angeles. Lines, Love and Lies. J'ai fait une grande cabane à Los Angeles. Et maintenant, je vais faire d'autres choses. Je trouve que c'est dommage, tout ce matériel 16 mm qui sert à rien. Si ça peut servir à faire des choses à voir, des choses à s'amuser, à rêver. Et vous savez, c'est très joli quand on rentre dans la cabane. Forcément, comme il y a de la lumière dehors, alors on voit, on a bien soigné, on met les têtes des acteurs à peu près à la hauteur. Donc les gens rentrent dans la cabane, ils voient Catherine Deneuve et Michel Piccoli en gros plan comme ça. C'est l'idée qu'on se joue de ça. C'est plus comme ça, eh ben, il y en a encore, on fait quelque chose.
Et pour revenir à Ciné Tamaris, pourquoi ça a été important pour vous dès le départ, puisque c'est...
On se connaît
pas. Oh oui, mais pour la radio,
mais
c'est
la radio.
Je veux bien
tutoyer. Me dis vous.
Je veux bien tutoyer, chère Agnès, mais ça exclut l'auditeur, paraît-il. D'être.
On se connaît depuis longtemps.
On va tous se tutoyer.
Donc on se dit tu.
Bon.
C'est un peu
on se l'accorde, ça fait au moins 20 ans.
D'autant que moi, depuis 68, j'ai un peu tendance à dire tu à tout le monde.
Alors, on se dit tu, Agnès. La maison de production Ciné Tamaris, être sa propre productrice dès le début, et l'avoir toujours été, et en tout cas d'avoir acheté les droits des films de Jacques Demy pour continuer à les montrer, à les soigner, à les restaurer, les tiens. Pourquoi ça a été important tout de suite que tu te sois rendu compte qu'il fallait être son propre maître?
Mais parce qu'ils m'ont pas voulu. Heureusement, par exemple... Cléo de 5 à 7, Georges de Bourgard. Après, j'ai eu le bonheur chez Mac Bonnard et les créateurs. C'est-à-dire que si on a des producteurs qui nous veulent, moi j'y vais en courant, mais la plupart du temps, après les créatures qui avaient été un flop d'ailleurs, ils ne m'en voulaient plus. Et quand on ne veut pas, ben, je m'y mets quand même. L'une chante, l'autre pas. J'arrivais pas à placer ce sujet féministe, qui ça intéresse, etc. Bon. Donc moi, ça m'intéressait et on l'a produit à Tamaris. Ça veut dire chercher l'argent. Dans ma vie, je peux dire que le quart de mon temps, j'ai fait des choses, j'ai créé des choses, j'ai travaillé. Et puis, il y a bien la moitié du temps, chercher de l'argent. Tout le temps. Partout dans les organismes qui existent. On dit quoi, le centre du cinéma, les régions, les machins, trouver un distributeur, un vendeur, etc. Ça m'a pris énormément d'énergie. Le relais a été pris par mes enfants, Rosalie et Mathieu. Et c'est Rosalie, elle, maintenant, qui va au charbon et qui cherche l'argent. Et tant mieux, parce que comme ça, moi, j'ai ce souci en moi. C'est pas l'envie d'être madame la productrice, ça m'intéresse vraiment pas. J'aurais préféré être... Moi, j'avais même proposé au CNC qu'ils me donnent un salaire mensuel et puis que je leur produise, qu'ils me produisent un film tous les deux ans de moyenne dépense. Ils veulent pas, mais moi, ça m'aurait arrangé, ça. L'idée que dès qu'on a une idée, il faut chercher de l'argent. Les écrivains, ils ont pas ce problème, hein.
De travailler en équipe, ce qui est quand même le propre du cinéma, c'est quelque chose qui te plaît. Il y a cette ruche qui est Ciné Tamaris où les postes sont assez polyvalents de ce que j'ai observé. Mais le fait de travailler avec une équipe de cinéma, comment tu vis ça?
Mais il y a deux choses. L'équipe de cinéma, c'est le tournage. Quand on tourne, il y a vraiment l'image, le son, l'organisation, la régie, la direction de production. Ça, c'est des équipes et ce sont des équipes momentanées. Parce qu'en fait, quand le film est fini, c'est un peu comme dans la marine de commerce. On fait le voyage, on arrive, on boit un coup, et puis on se sépare. Alors, l'équipe de base de Ciné Tamaris, on n'est pas tellement. Il y a trois femmes et un homme, le comptable, il est sérieux. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi des femmes comme je les aime, c'est-à-dire intelligentes et un peu drôles. Parce que on peut pas se prendre au sérieux, même si on gère de l'argent, quoi. Je me sens très protégée. Et je me sens très aimée aussi. C'est-à-dire que même quand mes films ne marchent pas, il y a toujours quelqu'un pour me dire que c'est bien. Non, mais il y a toujours 2-3 personnes, 10 personnes, 50 personnes, ça suffit. Et puis dans la rue, comme ça, quelquefois, on m'arrête. Alors, ce qui me fait très plaisir. On me dit merci. On me dit pas bravo, on me dit merci. C'est très impressionnant, ça. Oh, je vous remercie beaucoup pour vos films. Peut-être qu'ils sont pas bien. Voilà. Ce qui est bien, c'est pas des compliments, c'est des gentillesses. Et alors, ça me trouble encore plus, parce que quand c'est des gens, des jeunes gens et des jeunes filles, parce qu'on avait un peu l'impression que c'est les gens de ma génération qui se souviennent, etc. Oui, il y en a beaucoup qui me parlent des vieux, ils me parlent du TNP. Et d'Avignon, c'est pas des blagues. Et plus on est jeune, plus il parle alors de ce que j'ai fait. Je crois que justement le documentaire Les Glaneurs a été bien compris par la jeune génération. Et du coup, ils ont eu la curiosité du reste, quoi. Enfin, j'en sais rien.
Pour avoir fait aussi bien des... Ah, voilà, l'oiseau nous redit quelques mots.
Inspire-moi un petit peu. C'est bien.
Pour avoir fait aussi bien des fictions avec scénario, avec la conception de la structure dont on parlait tout à l'heure, et des documentaires où la forme est plus libre, s'invente peut-être aussi au fur et à mesure, qu'est-ce que tu préfères entre les tournages de la fiction et du documentaire? Est-ce qu'il y a un endroit où tu te réjouis plus?
Je pense que plus j'avance, plus j'aime faire les documentaires, parce que plus les autres m'intéressent. Et certains autres, c'est évidemment... ce que tu as mentionné d'ailleurs, c'est pas des gens en valeur, c'est justement, j'ai fait un film sur des glaneurs dont personne n'écoutait et on croyait qu'ils étaient juste des bandits. Et j'ai fait même une installation importante sur les squatteurs, parce que c'est une population qui se met où elle peut, mais qui est chassée à coups de pied, mais qui quand même vit. Et puis effectivement, le film que JR et moi on a fait récemment, c'est quand même des gens de la campagne qu'on n'est pas habitué à vraiment... Bon, tout le monde les écoute un peu, il y a des documentaires, mais on leur a proposé, avec nous, de créer des images d'eux-mêmes. C'est-à-dire, cette génération où nous sommes, où les gens font tous des selfies, mais on leur a proposé des grandes images d'eux-mêmes, de les mettre en valeur. L'idée de mettre en valeur les gens, ça me fait plaisir. Ça me met de bonne humeur. Ça rentre aussi dans cette idée de... dans les installations. J'ai essayé de... Tu as dit ça l'autre jour, on a parlé... Et tu as parlé du surréalisme. Quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup marqué, influencé même. Et dans une des installations que j'avais faites à la Galerie Obadiah, tu as remarqué...
J'ai remarqué la rencontre fortuite sur une table de dissection entre un parapluie et une machine à coudre.
Voilà, c'est un texte de Lautréamont. Et j'ai voulu le faire en vrai. Alors, c'était quelque chose de rigolo. On a été acheté, on ne pouvait pas louer une table de dissection. C'est spécial parce qu'il y a... le jus qui s'écoule, si j'ose dire. Et puis, une machine à coudre, et un parapluie. Et de faire en vrai cette imagination de M. Ducasse, ça me faisait plaisir parce que je me disais, je rends hommage, de même que j'ai fait une grande baleine sur la plage, pour les plages d'Agnès, parce que ces choses qu'on a aimées, c'était tellement virtuel, j'avais envie de les mettre en vrai comme ça. Et les installations permettent d'apporter des objets. J'ai fait par exemple une installation qui s'appelle Tongs. Ah, c'est ça, les tongs. Parce que ça rime, mais du coup j'ai perdu. C'est ting pong tong ting tong et camping. J'ai rendu un hommage à la matière plastique. Parce que tout le monde se plaint en disant oui, c'est beau le cuir, le bois, les vraies matières. Oui, mais les matières plastiques ont apporté une couleur dans notre civilisation. Les boutiques où on vend des seaux, des trucs, des passoires, tout en couleur. J'ai réussi à faire une énorme installation tout en plastique avec des grandes tiges de fer dans lesquelles on avait, comme ça, fait rentrer des, je sais pas quoi, des casseroles, des machins. Ça finissait par une grande cruche en plastique. Et cette couleur violente, qu'on pourrait dire grossière, elle illumine nos vies. Et ces petites tongs à 2€, 3€ sont souvent très colorées. J'avais fait tout un jeu. Donc, je pense que dans les installations, on peut jouer et regarder et utiliser l'observation de la vie et la réinventer. Je ne suis pas en train de dire que c'est beau le plastique. Je suis en train de dire que finalement, si on met des plastiques en couleur ensemble, eh bien, c'est beau. Ça fait partie de ce qui nous nourrit aussi, en même temps qu'on va avoir dans des musées les autoportraits de notre ami Rembrandt. En tout cas, la liberté de faire des choses m'a permis aussi de parler autrement des choses. Alors, il y a une installation qui m'a beaucoup touchée, moi-même, parce qu'elle est arrivée presque toute seule. Nous allions beaucoup à Noirmoutier, nous allions toujours, d'abord avec Jacques, puis les enfants, puis la famille, puis les petits-enfants. Et j'y vais depuis que je suis veuve, je continue à y aller. Et j'ai remarqué que dans l'île de Noirmoutier, il y a beaucoup plus de veuves encore qu'ailleurs, parce que dans les pays où il y a beaucoup de marins, beaucoup de pêcheurs, je sais pas, ils se noient, ils se cassent la tête dans le port. Enfin, il y a beaucoup de veuves. Et j'ai commencé à vouloir parler avec elles. Et je me suis rendu compte qu'elles me parlaient gentiment et assez franchement, parce que je suis veuve et parce que j'habite là-bas. Et que c'est comme un petit passeport. Mais j'ai aussi compris que ces conversations ne pourraient avoir lieu que presque à deux à deux. Donc, quelquefois, j'allais toute seule avec une petite caméra. Quelquefois, accompagnée de quelqu'un qui faisait le son ou qui m'aidait, enfin. Et j'ai été les voir peu à peu, chacune. Tout en ayant en tête une installation. Parce que j'aime les triptyques dans les musées et j'aime aussi les polyptyques. Il y en a quelques-uns comme ça où il y a une peinture. Et puis tout autour, quelquefois ça raconte la vie d'un saint, ou bien quand ce sont les polyptyques sur les continents, il y a toutes sortes d'images, des animaux et tout ça. Et donc, cette idée du polyptyque s'est imposée tout en allant tranquillement voir ces dames. Et là, on peut en montrer un peu.
On va vous
le raconter un peu. C'est très difficile à raconter parce que c'est tellement beau à voir. Non, c'est sérieux. C'est parce que ça parle mieux que ce que je dis.
Mais c'est pour ça que tu fais du cinéma et pas de la radio.
Oui, c'est ça. C'est ça. Là, on va vous le raconter un petit peu.
Les veuves de Noirmoutier. L'image centrale est un film en 35 mm. Éric Gauthier, à la caméra, a cadré le cortège des veuves au son du violon d'Ami Flammer et de la mer calme. Tout autour, sur 14 écrans, des dames de Lille, toutes veuves, qu'Agnès a filmé en tête à tête. Elles sont muettes, mais on peut les entendre. Chaque chaise avec des écouteurs correspond à une veuve.
J'entends quelquefois des gens qui disent qu'ils parlent à leur mort et qu'ils leur répondent non, moi, non, pas ça.
Ça, c'est Thérèse Cosson. Je sais pas où ils le lisent, les gens. Annie.
Ça fait 13 ans qu'il est parti, mais je peux vous dire que, comme je leur dis, c'est comme si c'était hier. Surtout le soir.
Ah, c'était le bon bonhomme. Jamais un mot. Il rentrait de la mer, il avait bu un coup, il se couchait, il dormait, c'était fini.
Ça, c'était Fine Poutoun, 99 ans. Et puis, ma voisine.
Veuve, eh ben pour moi, c'est avoir une étiquette. Moi, j'ai du mal à accepter ce mot, veuve. Oui, c'est vrai, ça. Un peu moins maintenant, mais au début, les premiers temps, je me dis, mince, je suis veuve. C'est avoir une autre identité, quelque part.
Et puis, Christiane Bouchereau, pêcheuse, veuve d'un pêcheur.
Charles-Marie, qui s'appelait. Quand il couchait, il couche toujours du même côté. Je n'ai jamais changé. Et j'ai jamais été capable de coucher dans le milieu du lit. Je couche toujours, toujours du même côté. Et je crois qu'on est toutes pareilles.
Et puis, mon amie Inès Aloro.
Pour l'instant, si tu veux, la maison est encore pleine de la présence de Thierry, de son odeur, de ses... On a mangé il y a deux jours des haricots verts qu'il avait achetés au marché. C'était encore... C'est encore tout récent, quoi.
Je fais partie du tableau et je me tais.
On va pas se taire tout de suite, Agnès.
Non. Non, mais dans cette série de toutes ces veuves, moi je ne fais pas de commentaires, mais je chante un petit peu à la fin de l'installation. Mais c'était tellement intéressant, et justement, dans l'image centrale que vous n'avez pas vue là, il y avait une plage, une table, une grande table, et elle tournait autour de la table. Et je me souviens que je les ai invitées, on a fait ça un dimanche, on a été les chercher en voiture, parce que certaines sont quand même assez âgées, dont Fine Poutoun quand même. On avait préparé des petits biscuits, du café, des petits fauteuils pour les asseoir. Et je leur ai demandé d'aller vers la table, de faire le tour de la table, sans explication. Et ça m'a fascinée, parce que quand on fait rentrer les personnes qu'on filme ou qu'on approche, quand on les fait rentrer dans le projet, elles se sont mises à tourner autour de la table. Et on avait l'impression que c'était peut-être le cercueil, peut-être une table où les gens se mettaient à table, peut-être un hôtel d'église. Je me suis rendu compte qu'elles avaient suscité des impressions, alors qu'elles ont fait ce qu'elles ont voulu. Elles ont tourné, il y en a qui sont parties au bord de la mer, et puis elles sont parties comme ça. Elles sont ressorties de l'image, si je peux dire. Elles étaient toutes habillées normalement, sauf une qui avait mis une petite coiffe de Vendéenne avec son petit costume. Et c'est aussi ce qu'avec GR on a aimé faire. C'est-à-dire que si on propose des projets aux gens. Au fond, tout le monde a envie d'être un peu artiste. Et ils rentrent dans les projets, ils participent. Ce qui évidemment nous aide, mais ce qui veut dire que c'est pas d'un côté ceux qui font et les autres qui sont juste présents ou témoins. Moi, j'aime bien l'idée qu'ils sont complices. Et quand je parlais au Glanard, par exemple, je leur disais que je faisais des documentaires. Effectivement, que moi, je rentre chez moi, je me mets sous ma couette et je mange tous les jours. C'est sous-entendu que je ne suis pas avec eux à dormir par terre ou dans des tentes, à chercher l'eau au bout du terrain. Mais que comme c'était mon métier de transmettre, de faire passer la connaissance des autres et les écouter, ils étaient d'accord de le faire. C'est-à-dire, c'était pas, j'ai pas eu l'impression de faire des documentaires volés, arrachés à la réalité. Quelques-uns sont très bons, hein, parfois, je suis pas en train de dire. Mais moi, j'aime bien l'idée que les gens savent qu'on les filme, ils l'acceptent, et puis ils l'oublient. C'est-à-dire, si on reste un peu longtemps, ils l'oublient. C'était comme dans Daguerreotype, les boutiques de ma rue. Je leur avais dit, mais après, on était discrets, on restait tellement longtemps que les gens rentraient, sortaient, on nous oubliait. Donc c'est le contraire de la télévision, vous savez, qui arrive, qui dit, alors il y a eu un feu, alors il y a eu un feu. Le pompier dit, ah oui, il y a eu un feu. Et on demande aux voisins, ah oui, j'ai vu les flammes. Si c'est 2 secondes chacun, c'est pas la peine. Donc il y a le temps qu'on passe avec les gens, comme dans l'usine, qu'on a filmé les gens, on a passé plusieurs jours, ou bien on a vu un agriculteur, on est revenu, il nous a emmenés, on a été voir comment il travaillait. C'est-à-dire qu'on établit une relation avec les gens qu'on filme. Ce qui n'a aucun rapport avec les acteurs. Les acteurs, c'est la même chose, mais ils sont assez de personnalité pour apporter leur personnalité en action avec le texte et tout ça. Tandis que les vrais gens, ce que j'appelle les vrais gens, c'est extrêmement intéressant parce que comme chacun est unique et dit quelque chose de particulier, c'est à nous d'arriver, de toucher du doigt. D'ailleurs, là, regardez pour les veuves, c'était intéressant. J'avais une petite question qui était, comment vous dormez dans le lit depuis que vous êtes veuve? Et c'était intéressant. Oui, la Christiane, elle a dit, ah non, je bouge pas, là, je me mets pas au milieu du lit, je reste à ma place. Je me souviens d'une dame qui m'avait dit, mais comme lui, il était en face d'une petite fenêtre, il voyait un arbre, alors maintenant c'est moi qui vois l'arbre. Vous voyez, c'est un peu revancharde. Mais la plupart du temps, elle disait, j'ai pas changé de place. Ça m'impressionnait parce que elle dormait avec un absent qui était à sa place. Et ces choses-là, on les imagine pas. Enfin, cette petite question, elle n'est pas tordue, la question, mais ça donne une idée de comment ce qu'ils ressentent le temps, combien elle dit, c'est surtout le soir. Ben, c'est évident, mais quand elle le dit, c'est surtout le soir. Moi, ça m'intéresse bien d'entendre ces choses. C'est pas intime, mais c'est vrai, et il faut le temps de le faire. Enfin, c'est pour ça que j'aime tant les documentaires.
Et puis le documentaire laisse beaucoup de place au hasard. Vous le dites dans Visage Village, le hasard a toujours été mon meilleur assistant. Vous le recherchez, ce hasard. On est encore dans le surréalisme, dans le hasard objectif, la rencontre et le fortuit.
Ah mais c'est absolument vrai. On est en attente. On est, je sais pas comment dire, on est ouvert au hasard. Et le hasard porte les choses. Et ça j'en suis sûre parce que combien de fois je me suis dit, mais quelle chance j'ai eu de... Bon, je sais pas, quand je tournais Cléo, je me rappelle, on s'était arrêté devant un magasin à pompes funèbres. Il est passé une femme comme ça, enceinte, avec un bouquet. Tout d'un coup, je sais pas, les choses, c'est même pas des figurants qui viennent par hasard, mais c'est qu'ils nous mettent le doigt sur quelque chose. Et avec Gérard, alors ça a été tout le temps, le fait qu'il y avait des choses dont il me parlait, il voulait m'emmener quelque part, et j'y avais déjà été 50 ans avant. Et on se retrouvait dans un lieu où on avait des souvenirs qui avaient juste 55 ans d'écart. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que le hasard est positif toujours. C'est-à-dire que c'est pas des vacheries qui sont proposées. C'est des contacts dans le temps. C'est des gens qui tout d'un coup disent quelque chose qu'on n'attend pas. Et ça veut dire qu'il faut être prêt à ça. Il faut, quand je dis que c'est mon premier assistant, mais c'est vrai, c'est parce que je lui dis, aide-moi en quelque sorte. Et ça mène tout seul. Mais c'est aussi les contacts, les gens qu'on connaît, qui font contact avec un souvenir qu'on a. Tout d'un coup, le temps, le vent, ça peut être lié à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut faire les films dans un état de... pas du tout de médium, parce que c'est idiot de dire ça, mais de pouvoir entendre quelque chose qui n'est pas complètement logique, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas juste la parole. Il y a des choses qu'on entend au bon moment. Mais c'est ça, ce moment magique du tournage, quand même. Et l'équipe qui est autour, ils apportent la, ils mettent à l'aise que ça arrive. Et puis, il y a le moment magique du montage aussi, quand même.
Alors voilà, on y arrive. C'est que pour organiser tous ces hasards, toutes ces rencontres, il y a le montage. Qu'est-ce qui se passe? Comment il est fait chez vous, ce montage chez toi? Ça y est, ça me reprend. Je suis passé dans ta salle de montage dernièrement. J'ai vu ces photos avec des petits textes en dessous qui décrivent décrivent la scène. Ça se fait comme un puzzle. Le puzzle est une des figures qu'on retrouve quasiment partout chez toi.
Le puzzle, c'est parce que toute image, par exemple, le portrait de Bonnat dans Saint-Antoine-Illois, il est fait par des gens qui l'ont vu passer. Et qui ont tous des points de vue et tous des points de vue différents. La bistrot dit elle a de la chance d'être libre. Le garagiste dit oh, toutes ses filles sont des coucheuses. Un petit maçon qui travaille dit la pauvre petite. Et que par tous ces témoignages, ou amicaux, ou positifs, ou méchants, on reconstitue cette espèce de portrait qui n'est pas possible autrement, puisqu'elle dit très peu. On apprend très peu sur elle. Sauf quand elle rencontre Macha Merrill, qui est une platanologue qui essaie de la comprendre. Et elle lui dit 3-4 choses. Mais on est en face de la réalité qu'on ne peut pas aider les gens qui sont dans cet état-là. Donc la platanologue l'aide un jour, 2 ou 3, et puis après elle la renvoie dans les bois. Mais donc on apprend sur elle cette petite construction de portrait. Le puzzle et le montage qui est un puzzle. Parce que même si on a écrit un film dans un certain ordre, il y a le fait qu'on a besoin de sentir que les séquences s'accrochent les unes aux autres, ou par un jeu de mots, ou par un jeu d'images, ou par une émotion, ou par une couleur. C'est-à-dire que les liens, bah c'est comme avec les gens, et on a des raisons d'être approchés. On a des raisons diverses de communiquer avec l'un ou avec l'autre. Et là, il faut que les séquences communiquent, il faut surtout qu'on prenne par la main le spectateur, parce que moi, je travaille toujours en pensant: qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Qu'est-ce que les jeunes femmes vont penser? Qu'est-ce que les vieilles vont penser? Qu'est-ce que les hommes qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'aller au cinéma, et s'ils voient ce film, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et à chaque changement, à chaque collage, et là j'ai travaillé avec un formidable monteur qui s'appelle Maxime Pozzi, mais quand même ensemble, on dit où est-ce qu'on trouve le... C'est même pas le lien, mais la fluidité. Et comment on peut, avec des choses éparses, puzzle qu'on a trouvé, on a tourné avec des dockers, on a tourné avec des paysans. Et puis, comment on peut faire que vous, spectateurs, vous acceptiez de faire ce chemin, qui on essaye d'être un petit peu des... On essaye qu'il se corse un peu et qu'on vous lâche pas, quoi. Je me souviens d'ailleurs dans Cléo de 5 à 7, je me disais, c'est un film triste quand même, sur une femme qui a peur du cancer. Vers la troisième quart, là, toujours où il y a un petit creux dans tous les films, à la fin du troisième quart, presque tous les films creusent un peu. Je me suis dit, on va faire une petite distraction. Et c'est là que j'ai fait ce sketch, qu'on ne peut pas vous montrer, mais avec Jean-Luc Godard, Anna Karina, Eddie Constantine.
Et qu'on voit dans Visage Village, comme la preuve qu'on peut faire enlever ses lunettes de soleil à tout le monde.
Je ne sais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que de mettre un petit sketch de 1 minute et demie, comme ça, pour elle est soi-disant une cabine de projection, donc le projectionniste lui montre ce petit truc pour la distraire, et puis elle reprend sa peur tout de suite après. Mais l'idée qu'il faut, si on a peur que les gens s'embêtent, alors on leur propose quelque chose. Je me dis toujours, est-ce qu'à ce moment-là, ils vont trouver ça trop long? Est-ce qu'il faut raccourcir? Et j'aime bien cette idée qu'il y a un dialogue virtuel avec des spectateurs qui n'existent pas encore. Je n'ai pas l'impression que je dois faire mon œuvre, ou l'œuvre à deux, comme on a fait là. Et on se dit, on fait ça pour montrer à des gens, on veut être compris, éventuellement aimé, et qu'il y ait des gens qui viennent voir le film. Alors c'est pas pour ça qu'ils réussissent tous. On fait des fois pas autant de spectateurs qu'on voudrait, mais déjà que ceux qui viennent soient dans le film et l'aiment. Parce que, bon, on est tous un peu comme ça, on a envie d'être aimé quand même. Donc on peut pas se cacher de ça. Même si on a l'impression qu'il y a des choses qu'on veut transmettre, des impressions qu'on veut transmettre, des compréhensions du monde actuel qui est quand même contrasté, difficile, où il y a vraiment tellement de gens qui sont rejetés. Et d'ailleurs, quand j'avais fait Les Glaneurs, j'avais été dans cette entreprise de pommes de terre avec ces espèces de filtres où on fait passer les patates pour qu'elles aient un format.
Pour le calibrage de la patate.
Calibrage. Et donc, on vend des patates de 5 cm sur 7. C'est celles-là qui se vendent mieux dans des petites boîtes de 3 kg ou 5 kg. Chez ces agriculteurs, le reste, on le jette. trop grosse, trop petite, on jette. Alors qu'ils pourraient très bien vendre des très grosses patates de livres, les gens auraient moins à éplucher. Donc, c'est comme ça. On est dans le formatage. Mais ça renvoie très clairement à une société de formatage. Et c'est pour ça, les gens hors format, si j'ose dire, justement, les glaneurs, les squatteurs, les paysans, les pauvres, les pêcheurs, ces gens-là, moi je me dis, non seulement ils méritent autant notre attention que d'autres, mais ils apportent quelque chose qu'on n'entend pas toute la journée, parce que c'est toujours le même type de gens qu'on entend. Et puis depuis qu'il y a des radios, des chaînes de télévision non-stop, pour faire des nouvelles non-stop, il faut qu'ils remplissent. Alors, ils pilent avec quelqu'un qui dit la même chose que le suivant qui dit la même chose. C'est-à-dire que c'est grotesque. C'était mieux quand il y avait les nouvelles à 8h et à 13h. Bon, ils ne pouvaient pas remplir plus que 10 minutes. Ça. Maintenant, c'est du radotage. Mais du radotage d'autant grave que du coup, on n'écoute plus les gens. Alors que moi, j'essaye de faire tout le contraire de ça. C'est-à-dire prendre le temps pour que ces personnes-là, que vous n'auriez pas connues sans nous ou sans moi, tout d'un coup, vous parlez, vous dites, mais oui, c'est intéressant, ou c'est bizarre, ou c'est triste. Et ça, je veux dire que dans les installations, j'ai réussi à le rendre palpable, parce que j'ai fait un hommage aux patates, par exemple, ces fameuses patates en forme de cœur, qui, quand elles vieillissent, meurent pas tout à fait, parce qu'elles ont des germes, des radicelles. Quand on montre cette installation, qui est un triptyque, on met quand même des patates par terre. Il y a 700 kilos de patates, parce que il y a tout d'un coup la réalité, et la toute légère odeur, qui fait que on comprend mieux des images et des idées s'il y a un petit peu de réalité. Il y a une autre installation qui s'appelle Bord de mer. On voit la mer, on voit la mer en image, en photo, puis filmée. C'est-à-dire qu'on a la fin de la photo qui est en vrai. Et puis il y a du sable. C'est-à-dire que c'est toujours, tu disais, pas de frontière entre la réalité et la fiction, entre le documentaire et la fiction, justement, entre le noir et blanc et la couleur, entre le numérique et l'argentique. Toutes ces frontières-là, moi, j'essaye un petit peu de les gommer pour que la liberté de ton permette que ce soit normal, que des personnes vraies, tout d'un coup, il y a un élément de fiction, il y a un élément d'imagination qui se mélange. Parce que dans ma tête, c'est comme ça, surtout. J'arrive pas à faire des... Je me dis pas, là, je vous parle, c'est du vrai, mais peut-être vous pensez à autre chose, je vais vous le montrer, et tout ça, c'est cette liberté de regard, et la liberté de travail, et la liberté de montage, que j'ai gardé, donc, à mes dépens, hein, parce que je trouve pas facilement de l'argent, même après tant d'années de bons et loyaux services. Je crois que il n'y a pas une fois qu'on a trouvé l'argent comme ça, ou un banquier ou un producteur qui a dit carte blanche, je sais pas ce que c'est.
Est-ce qu'une des choses qui t'a fait passer aux installations, c'est aussi une envie d'échapper à la violence du marché cinématographique? Un film qui sort, il sort au milieu de 15 autres, 20 autres films parfois, et je crois même me souvenir qu'il y a quelques années, tu disais, je ne veux plus rentrer là-dedans, et puis Visage Village est sorti en salle, donc malgré tout, tu continues à penser à la salle de cinéma.
Ah oui, mais avec, par exemple, tous les derniers films, les 3-4 derniers films qui ont été sélectionnés à Cannes, c'est hors compétition. Parce qu'au moins, on veut être vu, on veut la vitrine, mais on veut pas aller la rage aux dents en disant c'est moi qui vais gagner sur l'autre. L'idée de la compète me plaît pas. Donc il y a quand même cette idée que on veut quand même être en vue, évidemment. Et on sait qu'il y a 18 films, 20 films chaque semaine. Et est-ce que c'est la panique avant de sortir, c'est est-ce que on arrivera à se faufiler? Est-ce qu'il y a deux très beaux films qui vont emmener les quelques personnes qui vont au cinéma une fois par semaine, les deux fois peut-être, quelquefois très peu. Et alors il y a quand même toute la suite, qui est quand même la diffusion à la télévision, les DVD, ça se perd, mais quand même les DVD, on peut avoir chez soi le film, le regarder quand on veut, mais tout ça se perd. Alors il y a les réseaux, tu vas pas me parler des réseaux et me dire que je suis trop vieille pour m'en occuper.
Alors, je suis sûr que tu connais ça mieux que moi, parce que on voit d'abord le passage au numérique a été quelque chose d'important pour toi. Tu as ici un appareil photo, téléphone qui doit servir aussi à mille autres choses. Mais moi, je revenais sur.
Je photographie la salle.
Je voulais revenir sur cette question des DVD, parce que les DVD de tes films et de ceux de Jacques Demy que édite Ciné Tamaris ne viennent jamais seuls. Il y a des films en plus. Il y a les fameux bonis. Ces petits cadeaux que tu fais aux spectateurs de ce DVD, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants?
D'abord parce que je dis des bonis, parce qu'un bonus des bonis, c'est plus latin, c'est plus joli. Donc des bonis, ça veut dire plusieurs petits suppléments. Parce que si on achète un DVD, c'est pas pour voir le film tout cru. Et je pense que c'est intéressant. Par exemple, pour Cléo de 5 à 7, j'ai ramené Corinne Marchand, nous sommes repartis au Parc Montsouris. Et ce qu'elle a dit du film, pas combien d'années après, c'était intéressant. Pour Jacques de Nantes, il y a un garçon qui a raconté comment la vie sociale, la vie politique à Nantes a été parsemée de grèves importantes qui ont changé, et des choses qu'on raconte, particulièrement aussi au moment des Allemands. Ou bien pour Le Bonheur, je suis repartie à Fontenay-aux-Roses et demandé aux habitants, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ? Question un peu bateau, mais c'était intéressant de le faire dans les lieux où on avait tourné, où Jean-Claude Roux est revenu, ex-Thierry Lafronde, adoré des téléspectateurs, est devenu un acteur assez imposant, et il est venu dire des choses là. Donc c'est une façon de dire, je passe en prétention, mais c'est comme la Pléiade, quand c'est une édition sérieuse, on ajoute des choses. Alors il y a des gens qui parlent, il y a des commentateurs qui disent des choses. C'est parce que si on l'a chez soi, même dans le coffret, j'ai fait pire. Dans le coffret de tous mes films, j'ai fait une pochette surprise. Et alors, une pochette qui s'ouvre, et dedans, il y a quoi ? Il y a une petite toupie, il y a des petits morceaux de films, il y a des DVD de choses qu'on n'a pas montrées, ou des extraits de trucs que j'ai mis de côté, il y a des images, il y a toutes petites images des affiches. Il y a même une carte postale cadeau. C'est un peu comme les bonus dans les paquets de lessive, à part que c'est un peu mieux, quoi.
Merci beaucoup, Agnès.
Et merci à l'oiseau. Et quand on arrête de le caresser, eh bien, il s'arrête. Ça, c'est une bonne leçon à savoir.
Merci à vous.
C'était la masterclass d'Agnès Varda avec Antoine Guillot. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.